très bonne journée. Sébastien Duhamel, prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel. Afrique Midi, comme tous les jours, présenté par Nicolas Sûr.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il recouvre 70% de la surface de la planète. Il joue un rôle essentiel dans la régulation du climat et permet de nourrir des milliards de personnes, sans compter les emplois directs et indirects. Voilà pourquoi il est si important de protéger l'océan. Jusqu'à vendredi se tient à Nice, dans le sud de la France, la conférence des Nations Unies sur l'océan. Sébastien Duhamel vous en parlait à l'instant dans son journal. RFI vous permet, grâce à de nombreux rendez-vous, de vivre au plus près cette conférence, d'autant que la quasi-totalité des pays de la planète, sauf les États-Unis, mais en tout cas la quasi-totalité est bien présente. L'Afrique est présente également à Nice. L'Afrique, bien évidemment, concernée par les enjeux de cette conférence. Sur les 54 pays du continent, 39 sont côtiers. Avec le dérèglement climatique et la montée des eaux, tous les pays du continent sont confrontés à l'érosion de leur littoral. Par ailleurs, le poisson se fait de plus en plus rare, notamment en Afrique de l'Ouest. Autre problématique évoquée, débattue à Nice, la pollution plastique et ses dégâts sur les écosystèmes, sur les poissons. Alors qu'attendez-vous de cette conférence? Quels sont les enjeux pour votre pays? Vos témoignages, vos réactions jusqu'à 9h, temps universel, 33 9 693 693 70 et vos réactions également sur nos réseaux sociaux Facebook et WhatsApp. On commence avec vous, fidèle. Bonjour. Allô, fidèle, êtes-vous là?
Je suis là, bonjour Juan.
Merci de nous écouter à Porto Novo, c'est au Bénin. Vous souhaitiez nous interpeller sur deux enjeux.
Et il s'agit d'abord de dire que le Bénin partage 121 km de littoral par rapport donc à l'océan. Donc c'est un enjeu majeur pour le Bénin de prendre part donc justement à ces assises-là. Ce que moi je note, c'est beaucoup plus l'implication des populations à la base, parce que nous avons quand même une population de pêcheurs, une économie liée à la pêche, mais dont les moyens ne sont pas toujours à la hauteur donc des grandes firmes, des grandes industries de pêche, qui eux rasent quand même le fond marin au détriment donc de ces pêcheurs-là. Donc j'estime pour ma part que ces grands rendez-vous devraient permettre non pas seulement aux experts, aux grands de ce monde de parler, mais d'impliquer beaucoup plus les populations à la base et surtout les populations de pêcheurs dont la matière justement de survie, c'est l'océan. Ouais. Donc c'est beaucoup plus cet aspect qui m'intéresse.
Le Bénin est un pays côtier, 121 km de côte, disiez-vous, fidèle, c'est ça?
Bien sûr.
Oui. Est-ce que vous sentez justement sur place une prise de conscience générale de la population? Est-ce que dans votre entourage, votre famille, vos amis ont conscience de l'importance de l'océan?
Absolument, absolument. D'abord les pouvoirs publics qui font beaucoup déjà, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'érosion bat son plein sur nos côtes et il y a des investissements colossaux qui sont faits justement pour combattre l'érosion déjà d'une part. Les populations ne sont pas justement sans savoir que c'est justement pour préserver nos côtes. Et d'autre part, il y a la problématique donc du poisson. Vous savez, moi je ne suis pas d'une famille de pêcheurs, certes, mais je suis quand même d'une famille de revendeuses de poissons. Oui. Et donc, ces bonnes dames allaient justement vers les côtes acheter du poisson aux pêcheurs. Mais depuis quelques années, je dirais même une dizaine d'années, ce n'est plus le cas. Tout le monde se rue maintenant sur les poissonneries avec justement ces espèces qui sont importées dans des conteneurs frigorifiques. Donc, vous voyez vraiment le drame qui se pointe à l'horizon. Pêcheur n'arrive plus.
Voilà, le pêcheur n'arrive plus à pêcher localement. Donc vous ne mangez plus du poisson local, vous mangez du poisson importé, ce qui semble évidemment paradoxal. Fidèle, merci infiniment de ce témoignage. Bonne journée à Porto Novo. Il y a Wetro qui nous a écrit du pays voisin, du Togo, où il nous dit que l'érosion côtière est un défi majeur. L'érosion menace des villages et des infrastructures. Il reconnaît, dit-il, que la pêche et le tourisme côtier sont des secteurs économiques importants, mais ils doivent, dit-il, être gérés de manière durable pour préserver la biodiversité et les ressources marines. Bonjour Diané.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Conakry et comme de nombreux auditeurs, vous nous interpellez, vous, sur la pollution plastique.
Oui, la pollution plastique aujourd'hui est un phénomène préoccupant pour l'Afrique, plus particulièrement pour l'Afrique de l'Ouest, parce que l'éco-geste n'est pas promis au niveau de nos institutions. Et je pense que tous les sacs qu'on dépose aujourd'hui par terre et à une destination finale qui est pratiquement l'océan.
Effectivement.
Et ça, oui, qui est l'océan. Et ça se manifeste à travers une extermination de la faune marine aujourd'hui et la rarification pratiquement des poissons, sans compter et toute l'économie maritime qui va avec. Je pense que il faut passer par une conscientisation de nos États, de nos institutions, et pour cela il faut un traité international par rapport à la protection de nos océans. C'est extrêmement important parce que nos vies en dépendent.
Évidemment, et vous savez ce qui se dit à juste titre, que si rien n'est fait en 2050, l'océan contiendra peut-être plus de plastique que de poissons. J'ai entendu un chiffre cette semaine sur RFI parmi les nombreux invités et experts qu'on a pu évidemment entendre, puisque une importante équipe est mobilisée à Nice pour nous faire vivre cette conférence des Nations Unies sur l'océan. Et c'était un responsable d'une ONG qui disait que chaque année, l'Afrique produisait 17 millions de tonnes de déchets plastiques. 17 millions. Moins de 10% sont recyclés et tout le reste finit. Eh bien, fini où ? Dans les rivières, dans les fleuves et dans l'océan Atlantique et l'océan Indien. Diane, je vous lis un commentaire et vous réagissez si vous le souhaitez. Vous me direz si vous constatez peut-être la même chose à Conakry. C'est Georges, il nous a écrit de Côte d'Ivoire. Il nous dit « Allez à Abidjan, allez à Port-Boué, jetez un fil de nylon dans la mer, vous le retirez une minute après et il vous faudra 5 minutes pour enlever les sachets plastiques qui s'y sont accrochés. » Vous constatez à peu près le même phénomène au large de Conakry ?
Le même phénomène, pratiquement, c'est au large de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, s'il faut parler en termes concrets, parce que et aujourd'hui, ce qui se passe pratiquement dans ces pays, c'est qu'il n'y a pas une politique coercitive pour pratiquement éradiquer le comportement qui consiste aujourd'hui à jeter des sacs plastiques et les industries, on délivre pratiquement des licences aux industries qui fabriquent ces sacs plastiques et la population majoritairement analphabète n'arrive pas à discerner les conséquences pratiquement de sacs plastiques sur la santé des consommateurs, sur la santé des animaux
bien
marins
sûr.
Et ça c'est extrêmement dangereux et je pense que nos États doivent jouer un rôle extrêmement important dans l'éradication de la prolifération des sacs plastiques.
Bon voilà qui est dit, Diane, merci infiniment pour ce témoignage, bonne journée à Conakry. Robert, vous m'avez l'air un peu plus dubitatif sur la pertinence ou les résultats de la conférence des Nations Unies qui se tient à Nice. Bonjour Robert.
Bonjour Monsieur Juan.
Vous n'attendez pas grand-chose de ce rendez-vous et vous disiez au standard, voilà, je ne pense pas que l'Afrique, une fois de plus, sera entendue.
Oui, effectivement, je doute très fort. Je ne pense pas que l'Afrique sortira gagnante de cette conférence-là. Parce qu'il y avait eu déjà des accords sur le climat. Et les pays occidentaux avaient pris des engagements pour aider donc le continent africain à lutter contre les effets du réchauffement climatique. Mmh. Et depuis lors, on a vu que ces pays, ces puissances mondiales, ils ont pris des engagements qu'ils ne respectent pas. Donc, chaque fois, c'est toujours comme ça. Et moi, je ne pense pas que l'Afrique sortira gagnante de cette conférence-là. Et maintenant, moi, ce que je suggère aussi, c'est que les pays côtiers africains qui continuent de négocier des accords, de négocier des contrats d'exploitation de nos espaces maritimes avec les pays, les puissances mondiales, doivent arrêter ce type de contrats, parce que vous savez, l'Afrique, d'ici 2050, le continent africain, la population va atteindre les 2 milliards d'habitants. Et je ne pense pas que le peu de ressources naturelles que nous avons actuellement suffira vraiment pour la population future d'ici 2050. Ouais.
Donc vous dites qu'il en va de la sécurité alimentaire du continent.
Bien sûr, il en va de la sécurité alimentaire du continent. Vous savez, si c'est l'Afrique qui est... Par exemple, si c'est l'Afrique, par exemple, si c'est les puissances mondiales qui ont des côtes poissonneuses, et que nous sommes, par exemple, l'Afrique, par exemple, est dans la même situation que ces pays-là. Est-ce que vous pensez que l'Afrique pourra vraiment négocier un contrat de pêche avec les puissances mondiales comme la Chine et les États-Unis ?
Bah oui, pourquoi pas, Robert. Regardez votre pays, le Sénégal. Le Sénégal tente de renégocier ses contrats de pêche avec l'Union européenne, avec la Chine. De mémoire, le Gabon, pas plus tard que la semaine dernière, a remis à plat un accord de pêche, je ne sais plus avec quel pays, je me demande si c'est pas également avec les Chinois. Donc vous voyez, il y a possibilité de renégocier et que ces accords soient, comme on le dit, gagnant-gagnant et ne profitent pas exclusivement aux bateaux européens et aux navires chinois. Robert, le temps passe très vite. Merci en tout cas de nous avoir interpellés. Abel, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Togo, vous disiez que les produits de la mer devenaient de plus en plus chers au Togo.
Oui. Oui, c'est la triste réalité que nous vivons dans le pays. Depuis un moment, comme l'a dit le tout premier auditeur, les ports de pêche, les pêcheurs vont à la mer, je peux dire, il y a 15 ou 20 ans plus tôt, quand les pêcheurs vont à la mer, c'est, disons, 24 heures ou 10 heures de temps, ils revenaient avec beaucoup de poissons. Mais depuis un moment, les pêcheurs vont à la mer, il faut 3 jours, 4 jours, mais quand ils reviennent, il n'y a pas grand-chose. Et la cause, c'est quoi ? Ce sont les chalutiers, les grands bateaux de pêche, surtout asiatiques, qui viennent avec les moyens plus sophistiqués d'attraction de poissons, qui raclent tout. Et ce qui fait que nos pêcheurs locaux n'ont plus rien et n'a pêché. Et ça crée vraiment une montée ou bien une hausse des prix des produits. Je donne l'exemple du tilapia, du maquereau.
Oui.
Ces produits de pêche-là qui sont majoritairement importés, puisque les pêcheurs reviennent bredouilles. Maintenant, ce sont les produits surgelés que nous achetons, et ces produits qui sont peut-être issus de l'élevage dans les pays asiatiques, en Portugal ou bien en Chine, ces produits ne sont pas forcément de meilleure qualité. Et quand les populations prennent ces produits qui coûtent 4 fois plus cher que les produits pêchés localement, vous comprenez que ça pose un problème sérieux, soit de pauvreté et de tout ce qui va avec. Et donc, les pêcheurs aussi ont leur emploi qui sont mis en danger carrément. Et je crois que c'est un grand enjeu, cette conférence. Et nous pensons sérieusement que au lieu que les États aillent toujours se plaindre dans ces grands rendez-vous, que les États prennent des initiatives locales. Vous aviez donné l'exemple du Sénégal qui a renégocié...
Enfin, qui veut renégocier.
...ses contrats de pêche, oui. Et on voit que actuellement le poisson revient sur les étals au Sénégal avec des prix plus abordables.
Si les Sénégalais nous écoutent en ce moment, qu'ils nous appellent et qu'ils confirment ce que vous nous dites, le poisson est de retour sur les étals à des prix plus accessibles. Abel, merci beaucoup, je vous interromps. Je vois bien que ceux qui nous contactent et qui souhaitent prendre la parole ce matin ont tellement de choses à dire, mais voilà, je suis désolé si vous êtes un peu frustré au final, mais je voudrais que le plus grand nombre d'auditeurs passent à l'antenne ce matin et que je cite aussi quelques-unes de vos réactions. Il y a par exemple Keita qui est en Guinée qui nous dit « Nos ressources halieutiques sont pillées sous nos yeux pendant que nos communautés côtières s'appauvrissent. Il est temps que la voix de l'Afrique soit entendue et que des mécanismes de protection et de justice environnementale soient mis en place. L'océan, nous dit Keita, l'océan est notre avenir. Sa sauvegarde doit être une priorité mondiale. » Bonjour Mansour.
Ah, bonjour Juan.
Vous êtes Sénégalais vivant au Bénin. Visiblement, vous disiez au Standard avoir participé à plusieurs COP en tant que cadre au sein d'une ONG, c'est bien ça ?
Exactement.
Et comme vous connaissez un peu ces grandes conférences, vous disiez au Standard ne rien attendre de la conférence qui se déroule en ce moment à Nice.
Exactement, je suis sceptique. Je me dis que les problèmes seront bien diagnostiqués, des résolutions seront prises ou votées, mais rien ne se passera après. Quand je prends, par exemple, la Convention sur la lutte contre la désertification, c'était la même chose. Il y a eu des rencontres qui ont abouti à des conventions, ensuite des COP. Rien ne se passera, je suis très sceptique, quoi.
Ouais. Si vous souhaitiez, si vous deviez nous interpeller sur un phénomène, sur un fléau, sur un des enjeux qui frappe votre pays, ce serait lequel ?
Sur la surpêche.
La surpêche, ouais. C'est le sujet qui revient systématiquement, la surpêche. Que faire ? Renégocier les accords, comme disait tout à l'heure un auditeur ?
En tout cas, moi je me dis qu'il n'y a pas un continent qui protège mieux ses ressources que l'Europe. Et c'est ces pays européens qui viennent piller nos ressources. Donc, où se trouve la solution ? Peut-être renégocier. Renégocier, ça peut aboutir à quelque chose, mais quand on voit le pillage, les Chinois sont pires. Parce qu'ils ont des bateaux-usines, ils construisent des usines de poudre de poisson. En même temps, ils sont très forts dans la corruption.
Bon.
Donc, moins que les Européens respectent certains standards, certains normes.
C'est ce qui se dit. Maintenant, je ne suis pas spécialiste du secteur, mais c'est ce qui se dit effectivement. Mansour, merci en tout cas de nous avoir interpellés. Bonne journée. Je vous lis le commentaire de Jacques. Jacques qui est en République démocratique du Congo. Protéger les océans, c'est protéger notre avenir collectif, dit-il. Les États ne peuvent plus ignorer la voix des scientifiques. L'OTAN, ce grand régulateur du climat, n'est pas un Far West. Il reprend là l'expression du secrétaire général de l'ONU, Guterres, n'est pas un Far West à conquérir. Et il nous dit que la pression démographique ne peut pas justifier un pillage aveugle. Tiam, vous êtes au Sénégal, à Saint-Louis, bonjour.
Bonjour.
Tiam, il y a du bruit autour de vous. Vous êtes au bord d'une route.
Oui. Je suis devant la porte de la maison.
Ah, là, ça résonne, du coup. Tiam, vous disiez craindre que les quartiers des pêcheurs disparaissent les uns après les autres dans votre ville à Saint-Louis.
Effectivement, la zone côtière de Saint-Louis, surtout le quartier de Guendar et la langue de Barberie, donc sont menacés par l'avancée de la mer. Mmh. Actuellement, toutes les digues qui ont été construites n'ont pas pu freiner vraiment cette avancée et que certaines maisons sont actuellement en ruine.
Donc la montée des eaux, excusez-moi Tiam, vous la constatez, vous la confirmez, au point que certaines maisons sont inhabitables aujourd'hui.
Inhabitables, même une école primaire. Dans le quartier de Guenda a été fermé à cause de l'avancée de la mer, parce que la moitié de l'école a été détruite par les vagues.
Ouais.
Donc l'eau monte jusque dans les maisons.
Et vous-même, Tiam, est-ce que vous habitez loin de l'océan ?
Bon, moi, j'habite à quelques 500 mètres de l'océan.
Et vous craignez ? Vous craignez qu'un jour, vous ne puissiez plus être dans la maison, là où vous êtes, où vous nous parlez en ce moment ?
Si, en tout cas, on ne fait rien, nous sommes menacés d'ici quelques années. Peut-être dans une vingtaine ou trentaine d'années.
Ouais.
Nous risquons de vivre les menaces des flots.
Merci Tiam. Pardon, je suis obligé de vous interrompre, on rend l'antenne malheureusement. C'était passionnant comme tous les matins. Merci à tous. Si vous le souhaitez évidemment, on prolonge la discussion, la réflexion vendredi dans la libre antenne. Je vous rappelle le principe du vendredi. Vous commentez l'actualité de votre choix. Demain, nous parlerons du recensement électoral en Guinée. Recensement en vue du référendum constitutionnel du mois de septembre et des prochaines élections, les législatives et présidentielles qui devraient, je dis bien, se tenir avant la fin de l'année. Constatez-vous un engouement pour ces opérations de recensement ? En tout cas, de très nombreux problèmes sont signalés ici et là. Vous pourrez donc témoigner demain en direct sur RFI. Bonne journée, prenez soin de vous.
Crédit immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique. Grandir ensemble.
Bonjour Raphaël Constant.
Bonjour Juan Gomez.
Dans 10 minutes, priorité santé, de quoi parlez-vous ce matin?
Alors aujourd'hui, émission santé et environnement, puisque si l'environnement a des conséquences sur notre santé, eh bien l'inverse est également vérifié. En France, le secteur de la santé serait responsable d'environ 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre, l'équivalent de 49 millions de tonnes de CO2 par an. Donc soins, déchets médicaux et énergie, on fait le point pour savoir comment dépolluer l'hôpital juste après.